Et bonjour en particulier à Xavier, comme nous avons moins chaud, vous commencez à parler de refroidissement social. Xavier.
Oui, bonjour Guillaume, bonjour à tous. Vous en parliez tout à l'heure, François-Julien, l'intérêt qu'il y a à suivre les questions numériques, enfin, vous ne parliez pas de questions numériques, mais c'est d'être le nez sur ce qui se fait de nouveau. À la fois en termes d'innovation technique, ce qui m'intéresse guère, mais aussi d'innovation conceptuelle, si j'ose dire, en tout cas d'identification de phénomènes nouveaux et de mots pour les désigner. Ainsi, vous êtes, vous, chers auditeurs, en tout cas si vous écoutez cette chronique en prenant des notes, ce qui me paraît la moindre des choses, vous êtes désormais familier avec...
Familier,
oui. C'est une manière d'être familier encore plus intimement. De l'ubérisation, de la gouvernementalité algorithmique ou de la bulle de filtre. Or, j'ai le plaisir ce matin de vous annoncer la naissance d'une nouvelle notion. C'était il y a quelques jours, mais elle bénéficie déjà de son fil de discussion sur Reddit, hein, le forum des geeks, ce qui est bon signe. J'ai nommé le refroidissement social, le social cooling en anglais. Inventé sur le modèle du réchauffement climatique, vous comprendrez par la suite pourquoi d'ici une huitaine de minutes, cette notion désigne un phénomène dont nous serions en train d'assister à l'essor discret mais qui pourrait bientôt nous concerner tous. Alors qu'est-ce donc que le refroidissement social? Son auteur, qui est un penseur hollandais des technologies du nom de Tijman Schep, le définit comme suit, je cite, « l'effet refroidissant d'une économie de la réputation et de la surveillance sur l'expression et l'exploration des idées ». Alors, sur quel constat repose cette théorie? Shep l'expose dans un site éponyme. Les données que nous fournissons par nos comportements numériques sont récoltées et évaluées par des marchands de données, les fameux data brokers. Ceux-ci utilisent des algorithmes pour identifier des patterns, donc des modèles. À partir de tout petits détails auxquels on ne prêtons aucune attention dans nos comportements numériques, ils peuvent faire des déductions sur des aspects aussi variés que notre orientation sexuelle, politique ou religieuse, le fait par exemple que nous fumons chez nous, que nous aimons le jardin, ou la plongée sous-marine, que nous avons plein d'amis, ou peu, que nous sommes diplômés ou pas, fêtards ou pas, que nous attendons un enfant ou pas, que nous venons de divorcer, que nous avons des parents séparés ou malades, que nous sommes handicapés, sympathiques, antipathiques, etc.
Comment est-ce qu'ils peuvent savoir c'est si ce on fume chez soi?
Les photos sur Facebook.
Comment ils peuvent savoir qu'on est sympathique?
Par exemple, ils lisent vos tweets et puis ils voient. C'est ce qu'on appelle donc les données dérivées. Elles sont évaluées selon des probabilités et elles valent encore plus cher que nos données personnelles et elles sont moins bien protégées puisque ce sont des données qui sont déduites par des comportements ou des signes, des traces, mais qui ne sont pas directement déclaratives. Et ce sont elles qui sont vendues. Or, explique Shep, les gens commencent à en prendre conscience. Ils commencent à comprendre que leur réputation numérique peut affecter leur vie. On peut se voir refuser un emploi à cause d'un profil Facebook. Une femme peut recevoir des offres de travail moins bien rémunérées de manière automatique parce qu'elle est identifiée automatiquement en tant que femme. Le taux d'un prêt peut être augmenté parce que vous avez de mauvaises fréquentations dans les réseaux sociaux ou parce qu'on a déduit de vos recherches que vous êtes malade, par exemple. Et donc, les gens peuvent être amenés à changer leur comportement numérique pour être évalués plus positivement. C'est ça, le refroidissement numérique, climatique. Pardon. C'est l'effet pervers et à long terme d'une vie dépendante de l'économie de la réputation. Alors, Shep voit trois conséquences à ce refroidissement social. Une culture de la conformité, donc une sorte d'autocensure, une culture de l'aversion au risque, hein, puisque les processus évaluatifs incitent à la prudence, et paraît que c'est prouvé. Et puis une forme de rigidité sociale, surtout bien rester là où l'on est. Et cela inquiète Shep. Cela ne risque-t-il pas de nous rendre plus lisses dans nos comportements, mais moins humains? Quel impact cela aura-t-il dans notre aptitude à évoluer dans la société? Alors, quel rapport, me direz-vous, avec le réchauffement climatique? Eh bien, parce que c'est un phénomène invisible, comme la plupart des pollutions, parce que conséquemment la prise de conscience est très lente, et parce que c'est un problème qui ne pourra, selon Shep, être résolu sans la volonté conjointe des politiques, des citoyens, des entrepreneurs et des scientifiques. Pas comme pour la question écologique, nous devons donc nous atteler à la préservation de notre environnement social, cette fois-ci, afin qu'il tolère et oublie les erreurs qui font partie de l'humanité, malheureusement. Il faut donc que notre environnement social ne devienne pas glacial. Alors, je ne sais pas, hein, si cette notion toute jeune prendra, si nous utiliserons bientôt ce terme de refroidissement social comme celui de changement climatique ou d'ubérisation. Néanmoins, malgré ses mérites, la notion appelle d'ores et déjà une critique. Pourquoi cela serait-il pire que d'obéir aux codes sociaux de l'environnement que nous habitons dans la vie physique? Après tout, il n'y a pas que la vie en réseau qui exige de nous une forme d'autocontrôle sur ce que nous disons ou faisons. Est-ce pire de répondre à ces exigences à cause des algorithmes que sous la pression de la morale, la religion ou tout simplement la bienséance? Et même, soyons un peu de mauvaise foi, est-ce que cela nous ferait tant de mal que ça, un peu de retenue? Et si, au fond, les algorithmes se transformaient en une sorte de surmoi automatique et extérieur? Est-ce que ce serait vraiment grave, bien grave? Si j'étais psy, je crois que je me pencherais d'ores et déjà sur cette question.
Merci Xavier Delaporte. On va demander à François Julien s'il était sinologue, par exemple, s'il se pencherait sur les questions que vient de se poser à haute et intelligible voix Xavier Delaporte.
Ce qui est intéressant, c'est ce discret. C'est-à-dire, arriver à analyser le discret des évolutions, ce que j'appelle transformation silencieuse. Et pourquoi une transformation est silencieuse? Parce qu'elle est globale et continue. Donc elle ne se démarque jamais suffisamment pour qu'on la remarque. Et donc, j'appelle transformation silencieuse ce qui chemine sans bruit, dont on ne parle pas. Et il me semble que ce que vous évoquez là, comme le réchauffement climatique, ce sont les transformations silencieuses. Donc, qu'il faut essayer de percevoir dans ce qu'elles, les fissurations discrètes, comme ça, qui cheminent sans bruit et auxquelles il faut être attentif. Donc, je crois que c'est important, effectivement, parce que le plus important dans le réel, c'est ce qui est discret. Enfin, discret au sens de ce qui n'apparaît pas brutalement, qui ne se déclare pas comme tel, qui ne s'annonce pas, mais qui chemine sans bruit et qui, finalement, transforme effectivement la situation. Donc, ça me semble effectivement important de... Voilà, d'être vigilant ou scrutateur, détecter, non pas projeter comme toujours, mais détecter ce qui, comme ça, chemine sans bruit et fait son chemin.